VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à Kinshasa. Bonjour à tous. L'Ituri attend le président congolais Joseph Kabila qui doit annoncer les modalités d'une conférence pour la paix dans cette province riche en or. Depuis début février, des tueries ont fait plus de 120 morts d'après un décompte de l'AFP, principalement des Hema dans le territoire de Djougou qui ont fui par dizaines de milliers en Ouganda ou dans la province et son chef-lieu Bunia. En attendant, le président donc, l'heure est à l'accalmie des tensions d'après plusieurs sources. L'armée qui a lancé une offensive après les tueries affirme avoir tué 28 assaillants et perdu 10 hommes. Un avocat camerounais a demandé au président Paul Biya d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains leaders de la contestation anglophone après un nouveau report jeudi du procès à Yaoundé de plusieurs d'entre eux, dont l'animateur Mancho Bibixi. Plus de précisions avec Irénée Hermanoumbou.
L'audience de 8 accusés dont l'un des leaders de la contestation anglophone, Mancho Bibixi, a été ajournée au 13 avril. Dans une affaire parallèle jugée hier au tribunal militaire de Yaoundé, un autre anglophone a été déclaré coupable d'apologie de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Sa peine sera prononcée le même jour annoncée pour l'ouverture du procès de Mancho Bibixi. Maître Emmanuel Sim, avocat des accusés, invite cependant le président Paul Biya à intervenir pour ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre les anglophones. Maître Sim précise que la crise anglophone est politique et ne peut avoir qu'une solution politique. Selon lui, c'est la seule façon de ramener la paix dans les deux régions anglophones. Rappelons qu'en août 2017, le président Biya avait déjà décrété l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones arrêtés dans le cadre de la contestation à la fin 2016.
Au Mali, un incendie d'une rare intensité a détruit un grand marché à Koulikoro, la deuxième région du pays. C'est un camion-citerne qui ravitaillait une station d'essence située en plein cœur du marché de Nara qui a pris feu. Les flammes se répandant rapidement au commerce qui y était installé. On ne déplore pas de pertes en vies humaines. D'importants dégâts matériels ont toutefois été enregistrés. Modibo Keïta, animateur à Radio Dagné FM de Nara, nous en dit davantage.
Aux alentours de 12h30 en temps universel, il y a eu un incendie à Nara. Plus précisément, le feu a commencé à partir de 12h30 qui a été occasionné par un camion citerne rempli d'essence et qui faisait du ravitaillement au milieu du marché. Il y a une station d'essence au milieu du marché même de Nara. Et cette station aussi est entourée par des magasins, des boutiques de vente, également des cyber ainsi que des salons de coiffure. Le marché en totalité qui a été réduit en ainsi que des boutiques de vente de pièces, des garages de réparation, des motos. Il y avait aussi des véhicules B107 ainsi que des véhicules 4x4 qui ont été totalement réduits en cendres. Il y a une famille aussi qui est à quelques 40 mètres du marché qui aussi a été totalement réduit en cendres.
C'est pas quand même un incendie criminel?
Non. C'est pas un incendie criminel. C'est le camion citerne qui était là pour le ravitaillement. D'habitude, ils le font dans la nuit. On a constaté que le ravitaillement a été effectué en plein jour. Au milieu du marché de Nara, il y a également des dames qui vendent. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que c'est le feu-là qui a occasionné l'incendie. Certains aussi disent que c'est le bouchon du camion-citerne qui a touché le ciment et qui a déclenché le feu. Chacun est en train de dire sa version.
Modibo Keïta a été joint par Modibo Dembélé. La finale de la présidentielle sierra-léonaise, c'est demain samedi. Face à face pour ce second tour, le candidat du parti au pouvoir, Samora Camara, et celui du principal parti d'opposition, Julius Madabio, arrivé en tête au premier tour avec 43,3% des voix. 3,1 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir le successeur du président Ernest Bai Koroma, interdit de se représenter après deux mandats. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. Le premier tour, le 7 mars, avait été marqué par une très forte participation de plus de 84%. Les résultats préliminaires de l'élection présidentielle en Égypte donnent l'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sissi, gagnant avec 96,9% des voix. Les résultats définitifs de ce scrutin sans surprise, organisé les 26, 27 et 28 mars, doivent être proclamées lundi. Quelque 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur près de 60 millions de personnes inscrites sur les listes, soit un taux de participation de 42,8% selon le quotidien Al-Ahram. Parmi eux, 23 millions ont voté pour M. Sissi selon le journal. Le seul autre candidat, Moussa Mostafa Moussa, a recueilli 3,1% des voix, soit quelque 750 000 votes, a précisé la même source.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique, il est 7h05 à Washington. L'armée russe a annoncé aujourd'hui qu'un accord avait été conclu avec les groupes armés à Douma, en Syrie, pour leur sortie de cette ville de la Ghouta orientale, cible d'une vaste offensive du régime de Bachar al-Assad. En une semaine, un total de 31 890 personnes, des combattants, leurs proches et d'autres civils, ont ainsi quitté l'ancienne poche sud de l'enclave rebelle qui était contrôlée par le groupe islamiste Faylaq al-Rahman, selon un décompte de l'agence officielle syrienne Sana. Deux membres de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie, menée par les États-Unis, ont été tués et 5 autres blessés dans l'explosion d'un engin artisanal, a annoncé aujourd'hui le commandement américain. Celui-ci n'a pas donné de précision sur les nationalités des victimes ou les circonstances de cette attaque survenue hier jeudi. 6 membres des forces de sécurité ont été tués et 7 blessés aujourd'hui dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. 3 gardiens de village et 4 soldats ont par ailleurs été blessés selon le communiqué. Le gouvernorat attribue cette attaque au PKK, une organisation qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984 et est classée terroriste par Ankara, mais aussi par Washington et l'Union européenne. Ici aux États-Unis, le mur que le président américain veut ériger à la frontière avec le Mexique continue de faire la une. Le ministre de la Défense, Jim Mattis, a discuté avec le président Donald Trump de la possibilité que le Pentagone finance ce projet après le vœu exprimé en ce sens par le locataire de la Maison-Blanche. Le point tout de suite avec Abdourahmane Dia.
Jim Mattis a rencontré le président, mais Dana White, porte-parole du Pentagone, n'a donné aucun détail. Interrogée sur la possibilité que le Pentagone débloque des fonds pour ce projet, elle est restée évasive, disant que la sécurité des Américains était d'une importance primordiale pour le secrétaire à la Défense. Jim Mattis a envoyé lundi aux employés du Pentagone un mémo sur le budget, leur demandant de se focaliser sur le caractère létal et abordable de chaque projet. Dimanche, le président Trump avait tweeté que grâce aux 700 milliards de dollars alloués à la défense en 2019 et aux 716 milliards pour 2020, l'armée américaine était de nouveau riche. Il avait ajouté que bâtir un grand mur frontalier alors que la drogue et les combattants ennemis inondent notre pays, c'est une question de défense nationale. Il a promulgué vendredi la loi de financement de l'État fédéral qui prévoit 1,6 milliard de dollars pour construire ou rénover des dizaines de kilomètres des clôtures, loin des 25 milliards qu'il avait réclamés pour la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique.
Des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza se sont rassemblés aujourd'hui en plusieurs endroits près de la barrière qui marque la frontière avec Israël où des affrontements ont éclaté avec des soldats israéliens. Selon le Croissant Rouge palestinien, 54 manifestants ont été blessés par des tirs de soldats israéliens. Tôt ce vendredi, avant le début des manifestations, un Palestinien avait été tué par des tirs de l'artillerie israélienne dans le sud de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé locale. La prix Nobel de la paix Malala Yousafzai poursuit son séjour au Pakistan dans la plus grande discrétion, au lendemain de retrouvailles très émouvantes avec un pays qu'elle a quitté il y a plus de 5 ans entre la vie et la mort. La championne des droits des femmes, célébrée en Occident, est un personnage plus controversé dans son pays où certains la considèrent comme un agent de l'étranger manipulé ou payé pour nuire au Pakistan. En 2012, Malala avait été évacuée d'urgence vers la Grande-Bretagne après avoir reçu une balle dans la tête au cours d'un attentat l'ayant ciblé à son retour de l'école. Les autorités russes ont annoncé 2 nouvelles arrestations après l'incendie meurtrier d'un centre commercial en Sibérie, alors que de nouvelles violations des normes de sécurité qui ont permis la tragédie ne cessent d'être révélées. L'incendie qui a ravagé un centre commercial à Kemerovo ville industrielle de 550 000 habitants en Sibérie occidentale, a fait dimanche 64 morts, dont 41 enfants. 5 personnes, parmi lesquelles des responsables du centre commercial et un membre de la sécurité, ont déjà été placées en détention provisoire le temps de l'enquête. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous émettons de Washington. Le prochain journal, ce sera en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.